Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, des barricades ont été érigées hier dans les rues de Cotonou, alors que le pouvoir dément vouloir arrêter l'ex-président Boni Yayi.
La chancelière allemande Angela Merkel, en mini-tournée sahélienne, a appelé hier à Ouagadougou à aider les pays du G5 Sahel dans leur lutte contre les djihadistes.
Au Mali, 5 chasseurs ont trouvé la mort en escortant un infirmier chargé de la vaccination des enfants de la commune de Diougani dans le cercle de Koro.
En République démocratique du Congo, 6 morts et 2 médecins enlevés dans le nord-est lors d'une première attaque des ADF dans la province de l'Ituri.
En Algérie, l'armée appelle au dialogue avec les institutions de l'État pour sortir de la crise.
Une grande manifestation est prévue ce jeudi à Khartoum pour maintenir la pression sur les militaires.
Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido appelle à la grève alors que le président Nicolas Maduro jure de châtier les traîtres.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Bénin, des manifestants ont dressé hier des barricades à Cotonou et les forces de l'ordre ont dispersé des opposants près de la maison de l'ex-président Boni Yayi. Le point avec Eki Abadou.
Tout est parti d'une marche non autorisée dispersée par la police. Elle devait démarrer devant le domicile de l'ancien président Thomas Yayi Boni. La police est venue disperser les manifestants. En réplique aux tirs de gaz lacrymogène, la foule a jeté des pierres. Les forces de l'ordre ont dû entourer le palais de la présidence qui se trouve non loin du domicile de Boni Yayi. Un parc de vente de voitures a été incendié, des véhicules administratifs saccagés et des pneus brûlés. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont dénoncé une arrestation manquée de l'ancien président. Le ministre de l'Intérieur a été obligé d'apporter un démenti formel disant qu'il s'agissait d'une opération pour disperser une manifestation sans autorisation. Ces violences interviennent peu après l'annonce des résultats préliminaires des législatives de dimanche. Le taux de participation a été historiquement le plus bas. L'opposition, qui n'a pas pu présenter de candidat, avait appelé au boycott. Seuls 2 partis proches du pouvoir se sont affrontés et se partageront les 83 sièges du nouveau Parlement.
Au Mali, 5 chasseurs ont trouvé la mort lors de l'escorte d'un infirmier chargé de la vaccination des enfants de la commune de Diougani dans le cercle de Koro. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la milice d'Anna Ambassagou qui condamne ces tueries et pense que c'est en représailles à la mort de 10 autres personnes dans la même localité. Le point avec Cassine Traoré.
Ce sont les chasseurs de Nyangadjou dans le cercle de Koro qui escortaient l'agent de santé venu de Douna pour vacciner les enfants contre la rougeole. Après cette opération, les chasseurs ont raccompagné l'infirmier à Douna. C'est pendant le trajet de retour qu'ils sont tombés dans une embuscade entre les 2 villages. Ils ont été attaqués par plusieurs hommes sur des motos et des tricycles. Selon les responsables de la ministre Anna Ambassagou, les chasseurs ont réussi à sauver la vie de l'infirmier, mais quand les chasseurs ont perdu la vie. Pour la milice d'Anna Ambassagou, les meurtriers sont reconnus, car c'est en représailles à la tuerie de 10 peuples dans la localité que cette attaque a été menée. En cette période de veille d'hivernage, les populations des plateaux d'Ogon, qui sont pour la plupart assiégées, demandent l'implication des autorités maliennes, la sécurisation de leur localité, afin qu'elles puissent au moins aller au champ pendant l'hivernage à venir. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La chancelière allemande Angela Merkel a appelé hier à Ouagadougou, première étape d'une mini-tournée sahélienne, les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel en première ligne contre les djihadistes et dont les 5 chefs d'État étaient présents dans la capitale burkinabé. Madame Merkel a promis une aide au Burkina Faso pour renforcer ses forces de défense. Eric Manirakiza.
La situation sécuritaire se dégrade. Nous souhaitons être du côté du Burkina Faso, surtout dans la coopération sur le plan sécuritaire, a déclaré Mme Merkel, première chancelière allemande à se rendre au Burkina et dont la visite coïncide avec un sommet des chefs d'État de la force G5 Sahel. Nous allons soutenir le Burkina dans le renforcement de la capacité de la police. Nous allons fournir une aide à hauteur de 7 à 10 millions d'euros, a-t-elle poursuivi. Dans l'Est et le Nord, Des milliers d'écoles ont été fermées en raison des attaques djihadistes qui menacent les enseignants. Le président burkinabé, Marc Christian Caboret, a rappelé que l'Allemagne a annoncé une aide de 46 millions d'euros qui devrait permettre de mieux prendre en charge la question sécuritaire au nord et à l'est. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. Ces attaques ont fait depuis 2015 plus de 360 morts, selon un comptage de l'AFP.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une attaque contre la province de l'Ituri, attribuée aux miliciens du groupe musulman ougandais des forces démocratiques alliées, a fait hier 6 morts. Le point avec Eddie Isango.
Pour leur première attaque contre la province de l'Ituri, des ADF sont venus en grand nombre. Nous avons tué 5 et un a été capturé. Un militaire a succombé à ses blessures, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. Nestor Banoba, président du réseau des organisations de la société civile, ajoute que les ADF ont pillé l'hôpital des Tchadi et ont enlevé 2 médecins et 3 autres personnes. Les ADF sont souvent accusés d'attaquer des positions de l'armée dans les nord Kivu voisins. En Ituri, c'est la LRA, armée des résistances du seigneur de Joseph Kony, et la milice congolaise, force des résistances patriotiques de l'Ituri, qui sont actifs. Les ADF sont historiquement des rebelles ougandais musulmans installés depuis 1995 dans l'est du Congo. À la mi-avril, les groupes État islamique a revendiqué pour la première fois une attaque contre une position de l'armée à Komanda dans le nord Kivu.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a appelé hier au dialogue avec les institutions de l'État après avoir opposé mardi une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants qui réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour gérer l'après Abdelaziz Bouteflika. Les précisions de Michel Joseph.
Je demeure entièrement convaincu qu'entamer un dialogue constructif avec les institutions de l'État est l'unique moyen pour sortir de la crise, a affirmé le général Ahmed Gaïd Salah. Ce dialogue, selon lui, est la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions constructives, rapprocher les points de vue et atteindre un consensus autour des solutions disponibles. Le mouvement islamiste de la Société pour la paix, le plus important parti de l'opposition, a salué toute option sincère vers un dialogue large et inclusif. Dans une déclaration écrite de son président, Abderrazak Macri, le parti appelle à répondre rapidement aux revendications du peuple algérien. Le Front des forces socialistes a pour sa part dénoncé l'ingérence du chef d'état-major dans les affaires politiques du pays. Selon ce parti, le peuple algérien n'accorde aucun crédit à ses promesses de protéger la révolution populaire.
Les manifestants sont attendus en grand nombre ce jeudi à Khartoum pour une marche d'un million de personnes à l'appel des meneurs de la contestation qui entendent maintenir la pression sur les militaires alors que les négociations sur un transfert du pouvoir aux civils piétinent. Les deux parties se sont entendues samedi sur la création d'un conseil conjoint qui remplacerait le conseil militaire de transition. Mais des désaccords persistent sur sa composition. Les représentants de la contestation proposent un conseil de 15 membres, dont 8 civils, tandis que l'armée veut un conseil de 10 membres, dont 7 militaires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Venezuela, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde contre, je cite, les conséquences les plus drastiques si les États-Unis continuent ce qu'il a appelé leurs mesures agressives. M. Lavrov a lancé son avertissement après une conversation téléphonique avec son homologue américain Mike Pompeo. Le département d'État s'est contenté de souligner que l'intervention de la Russie et de Cuba déstabilise le Venezuela. M. Pompeo a cependant répété que les États-Unis sont prêts à intervenir militairement si c'est ce qui est nécessaire, c'est ce que feront les États-Unis. Mais le secrétaire d'État américain et le président Donald Trump n'ont pas précisé ce qui pourrait déclencher une éventuelle intervention militaire américaine.
Au Venezuela même, le président autoproclamé du pays, l'opposant Juan Guaido, a appelé hier à une grève générale et à une poursuite des manifestations dans l'espoir de chasser du pouvoir le président Nicolas Maduro. Ce dernier a quant à lui promis de châtier ceux qu'il a appelés les traîtres responsables du soulèvement militaire raté de mardi.
Le ministre américain de la Justice, William Barr, a déposé hier devant la commission judiciaire du Sénat et répondu à des questions sur la manière dont il a géré le rapport du procureur Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
La production céréalière du Togo augmente pour la troisième campagne consécutive. En 2018-2019, elle a connu une croissance de 3% par rapport à la campagne précédente grâce aux conditions météorologiques favorables selon le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel cité par le magazine Togo First. Cette tendance s'est étendue à l'ensemble des pays de l'UEMOA. Le Burkina Faso, le Bénin et le Mali ont enregistré des augmentations respectives de 22%, 14% et 12%. La Gambie a signé un accord d'exploration pétrolière avec la société britannique BP pour explorer le pétrole et le gaz au large de ses côtes. BP réalisera d'abord une étude d'impact sur l'environnement dans le bloc offshore A1 avant de travailler sur un programme de forage de 2 ans. Le bloc A1 est l'un des deux que le gouvernement gambien a retiré de la société norvégienne African Petroleum Corporation, affirmant que les licences avaient expiré. Les deux blocs contiennent jusqu'à 3 milliards de barils de pétrole. Pour terminer, le gouvernement tunisien veut investir environ 22 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour réformer le secteur du transport, rapporte l'agence de presse Xinhua. D'après le ministre tunisien des Transports, Hichène Ben Ahmed, le sous-secteur ferroviaire est celui qui monopolisera 9,2 milliards de dollars avec 19 projets. Les infrastructures routières devraient se retrouver en deuxième position avec 18 projets, suivis des sous-secteurs portuaires et aéroportuaires.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ligue des champions, Liverpool n'a pas pu tenir hier face à Messi et Barça.
Oui, le FC Barcelone, grâce à son efficacité et un sensationnel Lionel Messi, auteur d'un doublé, a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions, dominant sa demi-finale aller contre Liverpool 3-0 au Camp Nou. Le Barça, qui rêve d'un triplé championnat Coupe C1 et d'un premier titre dans l'arène des compétitions européennes depuis 2015, a été bousculé par les Reds, mais Suarez à la 26e minute, puis Messi à la 115e et 82e minute, auteur notamment d'un but magique sur coup franc direct, lui ont assuré un large succès avant le match retour prévu mardi prochain à Anfield.
Et ce soir, les demi-finales de la Ligue Europa.
Oui, les Allemands de Eintracht Francfort reçoivent les Anglais de Chelsea. Et l'autre club de Premier League, Arsenal, va accueillir les Espagnols de Valence CF. Les deux rencontres ont lieu à la même heure, à 19h, temps universel.
Toujours en football, la République centrafricaine a un nouveau sélectionneur.
Oui, il s'agit de l'ancien international congolais Bruce Abdoulaye, selon nos confrères de Africa Top Sport, ancien joueur de Clermont Foot ou encore Bourges Personnas. Durant sa carrière, Abdoulaye a rangé les crampons en 2017. Abdoulaye remplace au poste de sélectionneur des Fauves le Suisse Raoul Savoy, qui a échoué dans la mission de qualifier les Fauves à la CAN 2019.
En athlétisme, le tribunal arbitral du sport a rejeté mercredi le recours de Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme.
La Sud-Africaine a perdu sa course probablement la plus difficile contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, obligeant les athlètes hyper-androgènes comme elle à faire baisser leur taux de testostérone. L'IAAF s'est aussitôt félicité de cette décision qui sonne comme une victoire, annonçant aussitôt que son règlement, adapté en fonction des réserves posées par le TAS, entrerait en vigueur dès le 8 mai. La décision du TAS ne m'arrêtera pas à assurer la double championne olympique sud-africaine. Dans un communiqué publié par ses avocats, les dirigeants sud-africains, eux, se sont dit déçus et offusqués par la décision du tribunal arbitral du sport. Et Idrissa, pour terminer, quelques nouvelles de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
En conférence ouest, un match, Portland a étouffé Denver 97 à 90 dans sa salle pour revenir à égalité, une victoire partout dans leur duel des demi-finales de la conférence ouest des playoffs NBA. Les Trail Blazers ont pris un petit ascendant avant les deux prochains matchs qui auront lieu vendredi et dimanche devant leur public à Portland. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Cotonou, au Bénin, tir de gaz lacrymogène, jet de pierre hier dans le quartier de l'ancien président Boni Yayi. Tout est parti d'un appel lancé sur les réseaux sociaux demandant au peuple de barrer les voies menant au domicile de l'ancien président pour empêcher les forces de l'ordre de procéder, disait-on, à son arrestation. Que s'est-il réellement passé? Des éléments de réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
C'est un secret hostile au président Patrice Talon que les policiers ont été accueillis dans la rue de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Un habitant témoin raconte.
Un parmi nous fait partie les voir et ils ont dit non, qu'ils sont allés les voir parce qu'ils ont appris que les gens veulent sortir, les gens veulent marcher par rapport aux résultats qu'ils ont donnés hier. Donc pour laquelle bon, ils sont arrivés pour empêcher le président Yayi de sortir.
Très rapidement, les voies menant au domicile de Boni Yayi ont été barricadées, la foule rassemblée, chassée à coups de gaz lacrymogène. En riposte, les manifestants ont commencé à lancer des pierres. Ensuite, une destruction de biens publics. Alain est un jeune étudiant. Il dit avoir été appelé pour venir manifester.
Ce matin, on était à la maison. Lorsque les gens nous ont appelés, que les policiers et les militaires sont venus attaquer la maison du président Yayi. Donc, par conséquent, c'est comme ça que on a débarqué, nous sommes arrivés sur le terrain. Effectivement, nous sommes arrivés, on a vu les policiers installés partout. Ils étaient nombreux. Ils atteignent au moins 7 véhicules comme ça. Là. Ils sont arrivés, ils sont allés garer partout dans la zone. Ils ont encerclé la maison du président Yayi. On les a chassés.
Station d'essence et parc de vente de véhicules brûlés, le distributeur automatique de billets d'une banque saccagée. Le bilan est bien lourd pour une manifestation qui n'a duré que quelques heures. Certains usagers de la route, obligés de faire le grand tour avant de rentrer, s'énervent et condamnent ce regain de violence.
Moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je veux que ça aille. Le pays, on veut la paix. Nous, on veut la paix dans le pays. On veut la paix.
Mais c'est malheureux. C'est malheureux pour la population. Sinon, mais moi, je vois pas pourquoi il y aura cette incitation.
Il s'agissait des gens qui ont promis faire la violence. Ils ont mis leur promesse en exécution. Sincèrement, je suis découragé.
Arrestation manquée de l'ancien président ou opération destinée à empêcher une marche non autorisée. L'avocat de Boni Yayi répond oui pendant que dans une déclaration, le ministre de l'Intérieur apporte un démenti formel. Pour lui, il s'agissait juste d'empêcher une marche non autorisée. Pour les jeunes patriotes, les anciens présidents doivent préserver la paix.
Les élections ont eu lieu. Nous avons voté dans la paix et la quiétude. Le vote a eu lieu. La fin du film est très claire.
L'ancien président a bénéficié du soutien de ses pairs de l'opposition qui ont réitéré leur engagement à arracher la réorganisation du scrutin. Depuis mercredi à 17h, une ceinture de sécurité a été formée autour du palais de la présidence de la République. Les portes de l'office de radiodiffusion et de télévision fermées et la sécurité renforcée. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Retour à présent sur le 1er mai dans certains pays africains. Pour commencer, la Guinée, où plusieurs personnes ont été blessées à Conakry dans des affrontements entre membres de centrales syndicales lors de la célébration de la fête du travail. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
La Confédération nationale des travailleurs de Guinée et l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, estiment que les autres centrales pouvaient elles aussi organiser leur fête. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et celui de l'autre Union syndicale des travailleurs de Guinée se sont vus refuser l'accès à l'esplanade du Palais du Peuple, lieu des festivités. Parmi les blessés, le célèbre syndicaliste Aboubakar Souma, l'homme à l'origine des grèves des enseignants en Guinée. Lui et plusieurs de ses collègues ont été empêchés de s'installer à la loge officielle. Une interdiction qui a été suivie d'affrontements et de jets de pierres, comme témoignent ici quelques enseignants.
Nous sommes venus, nous voulons entrer dans la cour du palais. Ils disent que non, nous sommes syndicat d'Aboubakar Souma, nous ne devons pas être dans le palais. Pourquoi? Mais pourquoi nous ne pouvons pas rentrer ici? Pourquoi non? Nous sommes des travailleurs. On ne peut pas faire le combat.
C'est bien dit, c'est un édifice. service public. Par conséquent, tout le monde a le droit de venir manifester là.
La Confédération nationale des travailleurs de Guinée accuse à son tour le SLEG d'être responsable des troubles qui ont émaillé la célébration de la fête internationale du travail à Conakry. C'est Sézou Manigui, secrétaire à l'organisation à l'USTG.
Ils ne sont pas compris pourquoi ils sont venus nous agresser. Parce que depuis hier 5 heures, nous sommes là. On est en train de faire l'organisation. On a passé la nuit. La nuit, ils sont venus avec leur véhicule pour venir monter leur turbine ici. On dit que ce n'est pas possible. Nous avons venu payer le palais. Nous avons des factures.
Confrontés au problème de chômage, les jeunes espèrent trouver un emploi. Certains rencontrés à Conakry se sont exprimés au micro de la Voix de l'Amérique.
Nous sommes dans un pays où trouver de l'emploi est devenu quelque chose vraiment qui est très difficile et compliqué pour non seulement les jeunes diplômés, mais aussi les hommes de métier. Donc je pense qu'on devrait aussi se pencher sur cette question de l'employabilité jeune. L'autre aspect, c'est aussi trouver des questions ou s'il faut des réponses concernant les conditions des travailleurs.
C'est une fête qu'on célèbre, mais dans notre pays, avec le taux de chômage, ce n'est pas vraiment évident. Il faudrait que pour cette fête, les autorités essayent de parler autour des phénomènes qui provoquent le chômage dans notre pays.
Selon la Banque mondiale, l'économie guinéenne est confrontée à quelques risques majeurs. Les élections législatives prévues cette année risquent d'affaiblir l'élan des réformes structurelles et la rigueur des politiques publiques au détriment de la croissance économique à moyen terme. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Mali, les centrales syndicales ont, à l'occasion du 1er mai, organisé des défilés et formulé des revendications, dont la satisfaction des doléances des enseignants grévistes, le respect des engagements pris par le gouvernement et la situation sécuritaire. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
C'est l'avenue du Mali qui a été choisie par la CDTM, la Centrale démocrate des travailleurs du Mali, pour son défilé du 1er mai. Pendant 3 heures, les syndicats affiliés ont défilé. Sidibé Dédé Ousmane, secrétaire général de la CDTM.
Notre première mission d'abord, c'est la défense des intérêts des moraux et matériels des travailleurs. Et vous savez, aujourd'hui qu'au Mali, le climat social il est très tendu. Donc nous allons nous impliquer auprès de tous nos démembrements, auprès de toutes les autres organisations syndicales pour décanter la situation. C'est ce que nous avons dit au premier ministre, chef du gouvernement, quand il nous a reçus. Nous sommes prêts à nous investir pour que la crise malienne soit jugulée. Toutes les formes de crise, la crise sécuritaire, la crise sociale, parce que sans ça, le pays ne peut pas se développer.
Le nouveau cahier de doléances de la CDTM sera bientôt peaufiné. Oumar Traoré, secrétaire administratif de la CDTM.
Le prix de logement, forcément, ça fera partie des fonds de revendication de la CDTM. La situation des fonctionnaires, des collectivités, la situation des cheminots, la situation de l'artisanat, les chambres de commerce. En tant qu'enseignant, là, c'est mon souhait que l'année puisse être sauvée, que le gouvernement puisse appeler vite fait la synergie sur la table de négociation et qu'il nous fasse une proposition concrète. On ne sait pas sur quel pied maintenant, c'est parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs.
Fidèle à la tradition, la centrale historique avec ses syndicats a investi le boulevard de l'indépendance. Parade et démonstration en moto et auto ont été les temps forts du défilé de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Yacouba Katilé, secrétaire général.
Notre condition de vie, comme en 2018, reste dérisoire malgré les récents accords et les mesures tendant à infléchir la courbe de la chérité de la vie. Les denrées de première nécessité ont certes diminué des prix, rendant leur accès moins pénible, mais la pauvreté générale est telle que l'impact est peu visible. En outre, l'accès à l'énergie et à l'électricité, malgré les blocages des tarifs, reste problématique à cause des permanentes coupures d'électricité qui empêchent une frange importante des travailleuses et travailleurs à produire pour vivre.
Quant à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, elle a organisé une table ronde au cours de laquelle son secrétaire général Amadou Amion Guino a demandé à l'État de respecter ses engagements.
Il y a des accords qui ont été signés par-ci par-là au niveau de la santé, de
l'école, dont la mise en œuvre reste un problème. Et ce qui justifie aujourd'hui, chaque fois, les dépôts de préavis de grève pour nous, une observation ou une mise en œuvre des accords signés. Encore une fois, nous sommes disposés à accompagner le gouvernement et tout le peuple malien parce que nous y sommes des citoyens à sortir de cette crise.
La CMT, Confédération malienne du travail, a informé ses militants sur l'assurance maladie obligatoire et universelle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie. Cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur les médias à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. À l'échelle mondiale, le nombre de pays où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité continue de se réduire. L'Afrique subsaharienne n'échappe pas à ce recul. La haine contre nos confrères, les attaques contre les journalistes d'investigation, la censure, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux, ainsi que le harcèlement économique et judiciaire continuent de miner notre profession. Des changements positifs sont toutefois salués dans plusieurs pays africains. On en discute ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
Enfin, au Gabon, la fête du travail a eu lieu cette année dans un contexte de réformes économiques contestées par les organisations syndicales. Le gouvernement invite ses partenaires à un dialogue permanent sur l'avenir du pays. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Les organisations syndicales et patronales, cette année encore, se sont donné rendez-vous sur le boulevard triomphal de Libreville. Une célébration de la fête du travail qui intervient une semaine après le dialogue social gouvernement-partenaires sociaux, censé dégager un consensus au sujet des réformes économiques en cours dans le pays. C'est le cas de la contribution de solidarité sur les hauts revenus. Wenceslas Mbangema, secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise, pense qu'il s'agit là d'une mesure de plus pour une rencontre de trop.
C'est avec beaucoup d'appréhension que nous allons prendre part à ces travaux parce qu'effectivement nous avons en mémoire 2014 où nous avons effectivement négocié et malheureusement jusqu'à présent nous attendons l'applicabilité. Est-ce que ce ne sera pas une négociation de plus ? Toujours est-il que nous accordons le bénéfice du au gouvernement pour que des résolutions fortes soient prises au lendemain de ces négociations.
Un manifeste des travailleurs a été séance tenante remis au Premier ministre. Dans ce document, les syndicats appellent à une meilleure redistribution des richesses du pays. Étienne Lambert Bouzanga, porte-parole de la coalition des secteurs des travailleurs publics et parapublics.
La concentration sans précédent de la richesse dans les mains de quelques 2% des Gabonais qui possèdent 98% des richesses du pays, tandis que 99% de la population gabonaise vit dans la pauvreté extrême, ne détenant que 1% des richesses nationales. Monsieur le Premier ministre, quand le chômage augmente, quand le pouvoir d'achat s'écroule, quand les inégalités s'accroissent, l'angoisse succède à l'espoir et précède l'expression du mécontentement.
En réponse aux critiques formulées par les syndicats sur les mesures économiques en cours dans le pays, le chef du gouvernement oppose l'argument du contexte économique qui nécessite des réformes. Julien, encore décalé.
Notre pays est engagé dans la transformation de son modèle économique et de gouvernance. Hier, notre modèle fondé sur la rente est aujourd'hui tourné vers la production. Cela nous contraint, chers travailleuses et chers travailleurs, à un changement de comportement. Il nous faut nous adapter. Il nous faut être flexible.
Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde et à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.